Bonjour mes frères et sœurs. Ouvrons le Saint-Livre, s'il vous plaît, dans le psaume 42, verset 2. Une expression qui revient très souvent dans la parole, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Je relis cette parole, s'il vous plaît. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, c'est dit différemment. Matthieu, chapitre 16. Lorsque Jésus pose la question de ce qu'on pense de lui, verset 15, j'ai l'habitude de dire que lorsque le Seigneur pose des questions, c'est important. Et il nous les pose à nous aussi. Nous pourrions répondre également. Matthieu chapitre 16, verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1er, par le biais de l'apôtre Paul, parle aux chrétiens de Thessalonique d'une manière très élogieuse. C'est une bonne église, l'église de Thessalonique, et regardez un peu pourquoi c'est une bonne église. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 8. « Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. » Ce n'est pas un encouragement, ça, par rapport à une église. Verset 9. « Car on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Dont trois textes qui nous rappellent que le Seigneur est le Dieu vivant. Vous allez me dire, ah, c'est très élémentaire ce que vous nous dites, monsieur le pasteur. C'est un peu sommaire. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Je ne suis pas du tout sûr que tous les chrétiens vivent dans cette expérience journalière que Dieu est le Dieu vivant. Bien sûr qu'on parle de Jésus et on vient à l'église et on prie et on chante des cantiques, etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas que nous pourrions faire des progrès dans cette perception et peut-être faire de nouvelles expériences par rapport au fait que Dieu est vivant? Les fils de Corée, on l'a lu dans le psaume, « Mon âme a soif du Dieu vivant. » Nous sommes sous le regard de Dieu, c'est une grâce d'être dans l'église, oui ou non? Nous aurions pu être malades, nous aurions pu être mal en point, etc. Dans un état peut-être même de découragement qui nous aurait éloignés de la maison de Dieu, que sais-je. Mais quand nous sommes dans la maison du Seigneur, nous nous approchons de lui, nous nous approchons pour le célébrer, pour le louer, pour l'adorer, mais en même temps, nous savons aussi que Dieu veut nous parler, parce que certains au milieu de nous ont peut-être besoin d'une nouvelle expérience et de le réaliser au travers de cette affaire. Dieu, il est vivant. Et lorsque j'ai pris ce texte dans les Thessaloniciens, c'est parce que Paul se réjouit, parce que l'église de Thessalonique, vous le relirez, cet épître, à la pensée de ce qu'on vient de lire. Vous regarderez tout ce que Dieu dit aux Thessaloniciens, dans les deux épîtres d'ailleurs, et vous verrez que ça dépend de cette affaire que lorsqu'ils ont abandonné les idoles, parce que les idoles nous parlent toujours d'une vie spirituelle qui est morte, vous pouvez le calculer comme vous le voulez, les idoles sont mortes, ceux qui prient des idoles leur ressemblent, c'est le prophète Ésaïe qui le dit, donc si vous priez les morts, si vous priez des idoles, vous ressemblez étrangement à cette affaire-là. Que ça vous fasse réfléchir. Mais il y a une grâce, c'est qu'on abandonne les idoles pour découvrir le Dieu vivant. Les progrès sont vraiment évidents. Regardez au verset 13 même, puisque vous êtes toujours dans cet épître du chapitre 2. Regardez bien les progrès de ces chrétiens. De 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Moi, c'est ce qui m'avait marqué la première fois que j'ai lu cet épître. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Donc voyez que les progrès de cette église étaient dus au fait que lorsque les Thessaloniciens écoutaient un pasteur prêcher, ils disaient « c'est pas la parole d'un homme, c'est pas de la religion, c'est vraiment la parole de Dieu ». Ce qui fait que lorsque vous réalisez au jour le jour que Dieu est vivant, eh bien votre espérance, elle est vivante. Si vous réalisez au jour le jour, dans vos moments de communion, que Dieu est vivant, votre consolation, elle est réelle. Votre paix, elle est profonde. Et on peut quand même s'interroger par rapport à la quantité de chrétiens qui perdent ces choses, qui perdent cet esprit de consolation, car Dieu est le Dieu de toute consolation. Oui ou non ? Pourquoi consolerait-il les uns ? Pourquoi ne consolerait-il pas les autres ? Vous comprenez bien que ça ne tient pas debout. Le Seigneur est le Dieu de toute consolation pour tous ses enfants. Le Seigneur donne la paix à tous ses enfants. Le Seigneur donne l'espérance, et je pourrais multiplier les vertus, à tous les siens. Et si nous ne le réalisons pas, peut-être qu'un pasteur hésiterait peut-être à aborder ce sujet dans le sens, comme je l'ai dit, où ça paraît très élémentaire. Mais mes frères et sœurs, ne voudrions-nous pas ressembler à cette église des Thessaloniciens qui avait la réputation d'une assemblée vivante parce qu'ils avaient conscience qu'ils servaient un Dieu vivant. Lorsqu'on parle d'église aujourd'hui, on parle de quoi ? Quand vous parlez, quand vous témoignez, vous dites, tiens, de quelle église es-tu ? On vous a déjà posé la question, dans quelle église vas-tu ? On vous a déjà posé la question ? Des fois, on a presque honte même de dire qu'on fait partie de l'église évangélique, tellement les reportages à la télévision sur les églises évangéliques ont été mauvais. Oui ou non ? Eh bien, oui, c'est vrai. Donc, en fin de compte, nous ne devons pas nous inquiéter par rapport au fait que nous appartenons à telle ou telle dénomination. Nous devons nous préoccuper que lorsque nous rendons témoignage que nous avons affaire à un Dieu vivant. C'est ça qui est important. C'est vrai qu'on peut avoir honte. Pourquoi je dis ça ? Parce que pour beaucoup de gens, aujourd'hui, église, témoignage, comportement, doctrine, association cultuelle, est-ce que vous faites que du cultuel, est-ce que vous faites aussi du culturel ? Vous voyez, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, les églises, c'est le travail social, c'est ceci, c'est cela, oui, on peut comparer les doctrines, on peut faire ceci, les œuvres de charité, est-ce que vous avez une œuvre au Niger, ou ici, ou ailleurs ? Je crois qu'il y a des choses qui découlent de la vie spirituelle. Mais la première chose, vraiment, si nous sommes sérieux avec Dieu, c'est que nous savons que nous avons affaire à un Dieu vivant. Oui, c'est élémentaire. Mais pourquoi tant de chrétiens alors sont si tièdes ? Pourquoi tant de chrétiens sont éteints ? Je sais que la vie est faite d'épreuves, je sais. Car on a tous des épreuves. Mais pourquoi y a-t-il tant de chrétiens quand même qui donnent un mauvais témoignage ? Car est-ce qu'on peut donner un bon témoignage en tout temps ? Est-ce qu'on peut donner un témoignage dans le deuil ? Pourquoi tant de chrétiens sont en vrac ? Parce que quand même, on doit se rendre à l'évidence. On doit se rendre à l'évidence, on va y aller. Parce que j'ai appris avec le temps que l'on pourrait prendre, par exemple, tous les textes de l'Ancien Testament qui parlent du Dieu vivant d'une manière positive et ne voir que cet aspect-là. Ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'églises, entre autres les églises de la prospérité, où on met en avant que le Dieu, que tout va bien. Mais vous allez voir que lorsque l'on prend tous les textes sur le Dieu vivant dans la Bible, il y a des avertissements qui nous font vraiment réfléchir. La vie avec Dieu est une vie vivante. La vie avec Dieu est une vie de grâce et de paix. D'ailleurs, toutes les épîtres commencent avec cette prière d'introduction, que la grâce et la paix vous soient données. Lorsque le Seigneur n'est plus vivant, c'est la preuve que l'on a basculé dans la religion. dans la religiosité, dans un christianisme qui nous convient peut-être, je ne sais rien. En tous les cas, ça ne convient pas à Dieu. Dieu veut que l'on réalise qu'il est vivant. Beaucoup de gens savent prier. Est-ce que des païens savent prier ? Est-ce que Jésus en a parlé ? Ne priez pas comme les païens. Ben oui, ça prouve que les païens savent prier. Ils peuvent prier. On peut enseigner les gens à prier, on peut enseigner les gens à aller à l'église. On peut enseigner les gens à exercer un ministère, on peut même enseigner les gens à prêcher. C'est pas parce que quelqu'un prêche qu'il connaît Dieu, c'est évident. C'est pas parce que quelqu'un joue du piano qu'il connaît Dieu, etc. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une activité religieuse qu'il peut témoigner que Dieu est le Dieu vivant. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ce matin ? Est-ce qu'il y a cette grâce, cette conviction que Dieu veut que j'aie ? Il est vivant dans ma vie. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que Dieu soutient ? Vous parliez de centaines de milliards de galaxies ? Vous les avez visitées ? Est-ce que vous savez que chaque galaxie contient chacune une centaine de milliards d'étoiles ? Et il est dit que Dieu soutient tout. Oui, c'est vrai. La façon dont c'est, je vous assure, on s'est structuré, c'est soutenu. Dieu soutient tout parce qu'il est tout puissant, parce qu'il est vivant. Et vous croyez qu'il peut vous soutenir, vous ? Vous croyez qu'il peut vous tenir ? Alors c'est vrai que le fait qu'on parle du Dieu vivant, et je sais prêcher. Donc je sais très bien que je pourrais articuler ma prédication d'un côté très très positif. Et il faut le faire. Et c'est sûr que si on prend conscience de ces choses, comme le psaume 42, « Mon âme a soif du Dieu vivant », je pourrais articuler, je voulais prendre 10 versets qui se recoupent et parler de ces choses. Mais je veux que vous compreniez bien que c'est plus sérieux que ça. La communion, c'est quelque chose de sérieux. Mais la communion avec Dieu, la conversion, la démarche, Jésus nous enseigne que lorsque nous nous convertissons, il y a également des tribulations. Oui ou non ? Est-ce qu'il y a des tribulations que pour les chrétiens ou tout le monde est à la même enseigne ? Est-ce que tout le monde a des épreuves ? Oui, bon. Bon. Mais le Seigneur parle, il dit, mais que, celui qui écoute la parole de Dieu, on pourrait le lire quand même ce texte. Parce qu'il il exprime très bien ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un lorsqu'il écoute la parole, même avec joie. C'est pas parce qu'on écoute la parole avec joie que le c'est gagné. Matthieu chapitre 13, verset 20. Il parle d'un cœur pierreux, c'est-à-dire un cœur qui a des problèmes à l'intérieur et qui ne les dépose pas. Les pierres, il faut les enlever. Et c'est à vous de le faire, chacun. Matthieu chapitre 13, on peut aider quelqu'un, mais c'est à vous d'enlever les pierres dans le terrain. Matthieu chapitre 13, verset 20. Ça indique que même si Dieu est vivant, il sait ce qu'il fait par rapport à nos problèmes. Parce que même si on est une nouvelle créature quand on se convertit, il n'empêche qu'il y a quand même des choses à régler. Oui ou non ? C'est pas parce que Jésus a dit « si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles » qu'il n'y a pas de problème. Elles sont nouvelles, mais il y a quand même des choses à régler. Matthieu 13, verset 20. « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. » Donc c'est les problèmes qu'on ne voit pas, comme les pierres sous la terre. Vous ne savez pas, là, sous le carrelage, mettre en dessous s'il y a de grosses pierres ou pas. Voilà, vous ne savez pas. On ne sait pas quand on regarde quelqu'un s'il y a des pierres. Quoi qu'à force de parler avec lui, on le sait. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Alors on pourrait se dire, ça va gazer. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, vous voyez, une épreuve, ou une persécution, une autre sorte d'épreuve, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Oui. Donc, la vie, elle est faite d'épreuves. Le prochain cas, c'est les épines. Les épines, ça se voit. Voyons, on peut le lire, celui qui a reçu la semence parmi les épines. Les pierres, ça ne se voit pas. Les épines, c'est les problèmes extérieurs. Ça, on peut voir certains problèmes chez les gens. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle. Ah, les soucis. Ça peut arriver d'avoir des soucis ? Les soucis du siècle. La séduction des richesses, l'argent, étouffe cette parole et la rend infructueuse. Voyez ? Donc Dieu permet, quand vous lisez ça, vous dites, voilà, il y a la conversion, il y a l'écoute de la parole, il y a la nouvelle vie, etc., etc. Avec ce Dieu vivant, mais ce Dieu vivant permet des épreuves, des tribulations, de tout ordre, dans tous les domaines.
Hier soir, on a vu avec les jeunes les problèmes des couples. Dès qu'il y a un couple qui a été créé sur la terre, paf, de suite, il y a eu un problème. Ils ont été confrontés au problème de la tentation. Et ils ont chuté ensemble, parce qu'ils n'ont pas veillé, etc. Quand vous prenez tous les couples, il y a un cas de figure chaque fois qui ressort. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il sait exactement ce qu'il fait dans votre vie. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser. Il y a la bénédiction. Est-ce que vous pourriez peut-être lever la main? Ne le faites pas. Mais est-ce que vous pourriez dire, oui, effectivement, le Seigneur a béni. Dieu a pourvu en 2016. Oui, Dieu a pourvu. Vous pourriez peut-être tous lever la main, non? Vous pourriez dire, Dieu a pourvu. Ouais. Vous pourriez dire, le Seigneur m'a consolé, j'étais dans le deuil. Et plusieurs, nous pourrions passer à côté de moi et dire, voilà, il s'est passé ça. Mais après, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Il y a des choses que nous comprenons, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Et c'est lorsque nous ne maîtrisons pas certaines choses que nous commençons à nous inquiéter ou à nous placer en difficulté. Mais Dieu sait exactement ce qu'il fait. Mais vous le croyez ça, mes frères et sœurs? Dans la vie physique, il y a des gens qui se croient abandonnés parce qu'ils ont eu des problèmes physiques. Voilà, je ne comprends pas. Alors en plus, ne nous traumatisons pas non plus. Parce que même des gars comme David ont dit, mais pourquoi m'oublies-tu? Est-ce que David a fait cette prière un jour dans un psaume? Je crois que c'est le psaume 13. Pourquoi m'oublies-tu sans cesse? C'est pas n'importe qui parle, c'est le roi David, l'homme de Dieu par excellence. Et pourtant, dans un moment d'épreuve, parce que des fois, on a besoin de... Il faut que ça sorte. Pourquoi m'oublies-tu sans cesse? Il l'exprime, mais il l'exprime à Dieu. Est-ce que vous faites la différence? Parce que c'est une chose d'aller voir quelqu'un et dire, « Ouais, j'en ai marre, je comprends pas, Dieu m'oublie. » C'est une chose d'en parler aux gens et de se plaindre et de peut-être de rendre mauvais témoignage. Ça n'est une autre de se tenir devant le trône de Dieu et de dire, « Seigneur, écoute, je comprends pas, mais c'est entre toi et moi. » Ce n'est pas du tout la même approche. Et ça ne démontre pas du tout la même attitude de cœur. Il y a une attitude de confiance en Dieu et l'autre, c'est une attitude de plainte. À moins que vous ne parliez avec des gens qui vous comprennent. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais apprenons à nous confier en Dieu. Donc Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il doit faire. Parce que nous, vous et moi, même si nous sommes un petit peu plus aguerris les uns que les autres, il n'empêche que nous ne savons pas ce que Dieu veut faire de notre vie. Est-ce que vous savez ce que Dieu veut faire avec votre vie? Est-ce que vous savez le conjoint qu'il vous faut, les jeunes qui n'étaient pas encore mariés? Est-ce que l'on sait la femme dont on aura besoin? Oui ou non? Non mais sérieusement, parce que nous on est là avec nos petites calculettes et nos petits programmes, mais est-ce que vous savez ce que Dieu veut? Vous ne savez pas ce que Dieu veut. Mes frères et sœurs, Dieu il sait ce qu'il fait. Et il sait où il vous veut. Et il sait quel est le but, parce que c'est une chose de chanter « Notre Père ». Que ta volonté soit faite. Mais quand même, ça indique qu'il y a des buts et des objectifs que Dieu a préparés. Vous ne le savez pas. Donc Dieu, lui, travaille en sorte que ses buts et ses objectifs se mettent en place. C'est pour cela qu'on devrait être, confiant. Mais est-ce que je crois que Dieu, c'est le Dieu vivant qui contrôle toute ma vie, qui sait exactement ce qu'il fait? Oui, j'ai peut-être été malade, tiens, j'ai passé un moment difficile, j'ai passé 2 mois, vraiment, j'étais pas bien, je comprends pas, Dieu guérit, j'étais à l'imposition des mains, ça, il n'y a rien fait, je commence à en avoir marre. Mais peut-être qu'il te fallait ces 2 mois pour réfléchir un peu. Oui ou non? Vous croyez que Dieu se... Non mais sérieusement, si vous croyez en Dieu, vous croyez que Dieu se moque de vous? Vous croyez que Dieu se moque de votre santé? Vous le connaissez, le Seigneur? Qui continue à s'autoriser, à dire, ouais, je ne comprends pas, si Dieu ceci? Vous savez, il y a quand même des versets terribles dans la Bible où il est dit, malheur à l'homme qui conteste avec son Créateur. C'est écrit ou c'est pas écrit? Et on s'étonne que des chrétiens soient toujours malheureux et sont tout le temps en train de contester. Oui, il est vivant. Et oui, on pourrait, et je pourrais le faire parce que je sais le faire. Je pourrais prendre que les textes qui parlent de l'aspect où Dieu est vivant et que c'est génial. Et c'est vrai en plus. Mais est-ce que je comprends que parce qu'il est vivant, vous pouvez prier une idole, vous pouvez aller prier dans une église. Il y a une église à côté là. vous pouvez aller prier, Saint-Antoine, etc. Vous inquiétez pas, vous n'aurez pas beaucoup de directions. Vous aurez la direction que vous voulez avoir. Mais si vous priez le Seigneur Jésus, le Dieu vivant, il va conduire les choses. Et il va peut-être vous amener dans des directions où vous allez quand même comprendre que parce qu'il est vivant, je dois chercher d'abord sa présence vivante. Il est le Dieu vivant. Je ne dois pas oublier que le Seigneur, il a un but. Il a un but. Vous ne savez pas ce que Dieu... Vous ne savez même pas ce que vous ferez dans 15 jours. Est-ce que vous le savez? Je prends un exemple. Dieu veut que dans 15 jours... Et une heure, parce que vous sortez du culte, parce que dans 15 jours, vous serez là, si vous êtes au Seigneur. Si Dieu que vous parliez dans le métro à une personne qui est en train d'envisager de se suicider, est-ce que ça peut arriver, ça, que Dieu vous mette dans 15 jours, dans le métro? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que vous pensez que Dieu pourrait préparer ce rendez-vous? Est-ce que, parce que, on peut ne pas être prêt, oui ou non? Est-ce que c'est facile de témoigner toujours? Soyons honnêtes. Des fois, on n'est pas de bon poil, oui ou non? Des fois, on n'est pas disposé, on n'a pas envie parce qu'on est pris par un truc. Mais dans 15 jours et 1h et 58 minutes, donc je vais rencontrer dans le métro cette dame qui s'en va à se jeter dans la Garonne. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il le sait. Est-ce que vous croyez que ça vaut la peine que Dieu dirige les circonstances pour que dans 15 jours et 56 minutes, vous soyez prêts? Il est vivant, mes frères et sœurs. Il est vivant. Il sait tout. Il connaît tout. Il dirige tout. Et il ne se moque pas. Nous devrions avoir ce respect, parce que c'est clair que c'est une chose de chanter « Tu es saint, tu es merveilleux ». Et tous les chants allaient bien, c'est sûr. Mais mes frères et sœurs, est-ce que lorsque je serai dehors, dans ma voiture tout à l'heure, ou ce soir, sous ma couette, et merci Seigneur pour les couvertures, est-ce que je serai en train de lui dire, Seigneur, tu es vivant, tu sais ce que tu fais? Et si je tourne en rond depuis peut-être 3 semaines ou 3 mois, peut-être, est-ce qu'on peut tourner en rond longtemps? Oui. Ça vaudrait peut-être la peine que je me remette devant le Dieu vivant et qu'avec beaucoup de respect, je lui demande pardon de tourner en rond. Car quand même, si nous n'avons pas compris qu'il est vivant et qu'il s'occupe de chacune de nos vies, il sait exactement comment nous protéger. Si on est là ce matin, laissez-moi vous dire, c'est parce que Dieu nous a gardés. Croyez-moi, si on est vivant, si on a nos 5 doigts à chaque main, nos 5 orteils à chaque pied et le reste, laissez-moi vous dire que Dieu nous a gardés. Vous le croyez ça? Ou parce que vous croyez que vous êtes meilleur que les autres, que vous vous êtes pas flingué un doigt? Vous avez des enfants? Moi, quand ils ont été grands, je me suis posé la question, comment ça se fait qu'ils ont tous leurs doigts? J'étais sérieux. Hein? Oui, on peut... Alors, il y a le moment difficile. J'en conviens, parce que c'est écrit, et c'est bien. Ça fait du bien de lire que Job, quand il en avait marre, parce qu'avec sa femme, ils ont traversé une épreuve terrible par rapport à la maladie, au deuil, à la perte des biens. Là, il y a le package. Ils s'en sont sortis, Dieu les a bénis. Et pourtant, Job a dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Est-ce que Dieu le lui a reproché? Non. Parce que dans la foulée, il va dire, mon rédempteur est vivant. C'est une chose de déverser son cœur. Ça n'est une autre derrière de dire, Seigneur, ça m'a fait du bien de te le dire. Mais je sais que tu es vivant. Et que si tu m'éprouves et si tu continues à m'éprouver, tu te lèveras le dernier sur la terre. Voilà. Il y a un respect des choses de Dieu. Et veillez-y, parce que c'est mon devoir de vous aider. Vous pouvez dire oui, le Seigneur est vivant. Est-ce que vraiment vous le croyez? Vous le croyez que Dieu est vivant? Moi, quand j'ai eu à cœur cette prédication, je me suis dit, mais c'est basique. Et puis, je me rends compte au fur et à mesure qu'on étudie la parole, que ce qui peut être basique, ça peut être beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Donc, lorsque nous sommes intelligents et honnêtes, et que nous nous retournons dans la vie, parce qu'à des moments, on se retourne pour faire le bilan, et on se dit, mais tiens, mais ce que j'ai traversé il y a 4 ou 5 ans, mais merci Seigneur.
Vous avez déjà eu le réflexe de vous retourner et de dire, mais ce que j'ai traversé, j'en avais besoin. Il y en a qui l'ont déjà fait, cette expérience. Mais cette épreuve qui m'a barré le chemin, j'en avais besoin. Mais vous avez lu l'Évangile ? Vous avez lu la Bible ? Est-ce que vous avez lu la Bible ? Est-ce que vous pourriez me dire un cas ? Parce qu'il y a quand même, il y a quand même quelques histoires dans le Saint-Livre. Est-ce que vous pourriez me dire un cas ? Venez, venez me le dire. J'en ferai une prédication. Un cas où Dieu s'est trompé lorsqu'il a éprouvé un de ses enfants. Il y a quelqu'un qui pourrait venir me dire, oui, je connais une histoire là. Alors, réfléchissez bien quand même avant de venir me voir. Mais laissez-moi vous dire que quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que Dieu a tout contrôlé. Tout. Tout. Que son nom soit béni. Et tout ça, ça a été écrit pour que l'on comprenne bien qu'il est vivant. Et que lorsque les gens étaient fatigués, énervés, en colère, coincés et en furieux même, c'est dommage quand on voit, on peut comparer les gens, c'est vachement intéressant de comparer les hommes dans la Bible comme Caïn quand Dieu vient le voir. Mais pourquoi tu t'irrites ? Pourquoi tu t'irrites ? En plus, Dieu prend le temps d'aller le voir. Pourquoi tu t'irrites ? Vous ne croyez pas qu'il aurait dû dire au Seigneur, « Seigneur, apprends-moi à ne pas mériter. » Il aurait pu faire cette prière. Est-ce qu'il aurait pu dire, « Seigneur, pardon, j'étais jaloux parce que mon frère t'a approuvé le sacrifice de mon frère et pas le mien. Seigneur, ça ne m'a pas plu. Vraiment, ça ne m'a pas plu. La prochaine fois, ben, je ferai bien. » Il n'aurait pas pu le faire, ça. C'était réglé. Ça prenait 30 secondes le temps de le dire. Et il s'est irrité, il est devenu jaloux et la jalousie l'a conduit au meurtre. S'il avait réalisé, et pourtant il le savait, le Dieu vivant s'était approché de lui pour lui parler, et voyez, mes frères et sœurs, le Seigneur, il est vivant. Alors, c'est sûr qu'il faut, il faut prendre conscience de certaines choses. Alors maintenant, j'aimerais lire un texte. Alors c'est vrai que je l'ai déjà un peu abordé, mais j'aimerais prendre un texte par rapport au Dieu vivant. Et c'est pour cela que ce que je dis, j'aurais pu presque l'enseigner aux jeunes pasteurs pour qu'ils comprennent l'équilibre entre la grâce, les promesses et après les avertissements. Regardez cette parole dans Hébreux au chapitre 3. Je vous le dis parce que c'est quand même sérieux, c'est archi sérieux par rapport au Dieu vivant. C'est pour ça que moi je bénis Dieu pour M. Olé, tout ce qu'il a pu m'enseigner par rapport à l'équilibre dans la recherche des contextes. Merci, Monsieur Olé. Je me répète, moi aussi, Monsieur Olé, je vieillis. Hébreux chapitre 3, verset 12. C'est important, frères et sœurs, d'être honnête. Vous aimez l'honnêteté envers Dieu ? Il faut être sérieux, il faut être honnête et il faut être fidèle. Si vous êtes d'accord avec moi, lisons-le ce verset. Hébreux 3, verset 12. Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et si on est honnête, parce que c'est ça le problème aujourd'hui, dans les églises, les gens, ils écoutent n'importe quoi. Et je peux vous dire que vous pourrez écouter certainement sur le net des prédications sur le Dieu vivant qui ne vont pas ressembler à la mienne. Mais l'honnêteté consiste à dire que la bénédiction, écoutez, vous l'avez lu avec moi, la bénédiction est accompagnée d'avertissements. Oui ou non ? Vous le voyez comme moi ? Vous n'avez pas tous répondu. Est-ce que vous voyez le sujet, le Dieu vivant, qui est une bénédiction, comparé aux idoles mortes ? Mais est-ce que vous avez cette honnêteté de dire « Oui, je reconnais que la bénédiction est accompagnée d'un avertissement. » Vous voyez, c'est ça l'honnêteté. Et aujourd'hui, on veut la bénédiction, mais franchement, les avertissements, il n'y en a pas besoin. Si Dieu prend le temps de nous donner des avertissements, c'est qu'on en a besoin. Et prenez garde, vous pouvez le calculer comme vous le voulez, c'est un avertissement. C'est un avertissement. Alors, quelle est la raison de cet avertissement ? Voilà, c'est ça. Quelqu'un d'intelligent, il dit, voilà, tiens, il y a un avertissement par rapport à la bénédiction, par rapport au fait que Dieu est vivant. Alors, regardons le contexte. Le contexte, comme ça nous a été si bien enseigné à la réunion de formation.
Si nous regardons le contexte, nous voyons qu'il y avait un plan. D'ailleurs, vous le lirez ce soir ou demain pour votre culte personnel. Prenez le temps de le faire. C'est ce que moi j'enseigne aux jeunes pasteurs. De prendre un texte, de regarder le contexte, pourquoi ça a été écrit, quand ça a été écrit, dans quel but ça a été écrit. Le contexte, c'est que Dieu a un plan. Dieu avait un plan pour le peuple d'Israël. Le plan de Dieu, pour nous aussi, c'est que nous entrions dans ses promesses. D'accord ? C'est pas parce qu'on est sauvé qu'on est dans le plan de Dieu. C'est pas parce qu'on est sauvé qu'on entre dans les voies de Dieu. La désobéissance peut nous en exclure. Donc il y a un plan, et justement cet avertissement nous montre que la désobéissance va nous empêcher de rentrer dans le plan de ce Dieu, même s'il est vivant. Et c'est quand même, ça vaut la peine quand même d'y réfléchir. Dieu a un plan, il a un plan, je le répète, il a un plan pour l'Assemblée, il a un plan collectif pour chaque Assemblée, il a un plan pour le corps de Christ en France, il a un plan pour votre vie. Tout à l'heure, je l'ai fait un peu sous le signe de la boutade là pour les jeunes, mais vous ne réalisez pas à quel point c'est important que vous vous mariez avec le conjoint que Dieu veut. C'est important à quel point que vous soyez dans l'Église que Dieu veut. Le choix d'une église, est-ce que c'est important ? Ah oui, on ne choisit pas une église parce que le pasteur, il est gentil. On ne choisit pas une église parce que dans cette église, on ne prêche pas sur la sainteté. Oh, moi, ça me va bien. Moi, il y a une jeune fille qui s'était convertie ici, qui a été délivrée de la drogue. Elle me dit, Monsieur Gauche, je ne viens plus dans votre église. Vous nous remettrez trop en question. Moi, je vais dans une église, il n'y a pas de prédication, on fait que danser. Eh bien, j'ai dit, allez danser. Je ne vous raconte pas la suite. Je pense qu'il y a un temps pour s'amuser, mais il y a un temps quand même pour être sérieux, très sérieux. Et s'il y a des avertissements liés à la bénédiction, il faut... Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? À cause de leur incrédulité, les Hébreux qui sont sortis d'Égypte avec des conseils, comme on l'a entendu ce matin, mais souvenez-vous, vous rappelez après l'introduction de la Sainte Cène ? Souvenez-vous. Souvenez-vous d'où vous allez sortir. Et quand vous les regardez, à des moments donnés, ça craint quand même. Ils enviaient l'Égypte. Vous vous rappelez ? Pendant 400 ans, ils ont supplié Dieu d'en sortir. Et une fois qu'ils ont sorti, mais qu'ils n'ont pas compris le plan du Dieu vivant, ils languissaient de retourner manger de l'ail et les concombres qu'il y avait en Égypte. Parce que la manne, ça ne leur convenait pas. Et ils l'ont appelé cette misérable nourriture, alors que quand Dieu parle de la manne, il en parle du pain des grands. Comment vous parlez du Saint-Livre, au fait ? Comment vous en parlez ? C'est révélateur comment vous parlez de la Bible, hein ? Moi je vous le dis. Et ils n'ont pas pu rentrer, malgré le fait que Dieu leur avait fait faire des expériences. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est vivant. Il les avait sortis de l'Égypte, il les a conduits volontairement dans le désert, parce qu'avant de goûter le miel et le lait, et les sources d'eau vive, etc., il fallait qu'ils apprennent à craindre l'Éternel. Et s'il y a tant de gens qui ne connaissent pas le Dieu vivant, c'est parce qu'ils n'apprennent pas à craindre l'Éternel. C'est-à-dire avoir un respect profond des choses spirituelles. Et il y a plein de gens, comme le dit ce texte, qui n'héritent pas des promesses alors que Dieu veut nous combler de toutes ses largesses, pour reprendre l'expression biblique. Est-ce que Dieu est capable de nous combler ? Ne parlons même pas spirituellement, mais spirituellement c'est acquis. Est-ce que Dieu peut combler quelqu'un de plein de bienfaits ? Vous connaissez ce texte, hein ? Quand il est dit que si Dieu nous a donné son Fils, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui ? C'est une question, et en plus elle est précédée d'une autre question, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Je le répète, si Dieu pose des questions, c'est pour que vous y répondiez, pour que tu y répondes. Qu'est-ce que tu dis à l'égard de cette parole ? Du Dieu vivant, que si moi, dit le Seigneur, je t'ai donné mon Fils au calvaire, tu comprends bien qu'il n'y a aucun problème pour que je puisse te donner toute chose. Et si nous ne les saisissons pas, c'est pas la faute au Seigneur. Si nous ne saisissons pas tous ces bienfaits, toutes ces largesses, toutes ces faveurs, ces consolations, cette espérance, c'est parce que nous n'avons plus de communion avec le Dieu vivant. Et s'il y a des avertissements, mes frères et sœurs, par rapport à la bénédiction, moi je trouve que ça vaut la peine de s'y arrêter. Les gens ne s'y arrêtent pas. Les gens, ils sont en colère, ils sont là. Mais le problème, qu'ils soient en colère contre le pasteur, qu'ils soient en colère contre quelques chrétiens qui n'ont pas été adroits. Parce qu'est-ce que tous les chrétiens sont fins? Allez, répondez, je ne regarde pas. Mais je regarde. Est-ce que tous les chrétiens sont sages? Ben non. Il y en a plein qui se loupent. Mais est-ce que c'est une raison valable pour tout envoyer balader? Ça aussi, ce n'est pas honnête. Parce que si un frère me donne un mauvais conseil, ou se tromper dans son analyse, je ne pense pas que ça interférera à la bénédiction du Seigneur. Approchons-nous de ce Dieu vivant. Réalisons, mes frères et sœurs, que Dieu, il sait, mais que l'incrédulité nous fermera le passage, nous empêchera de saisir ses bénédictions. Il est vivant, mes frères et sœurs. Il est vivant. Et il peut donner au-delà de ce qu'on peut penser. C'est écrit. Ce matin, vous avez entendu la prophétie là, sur l'autruche. Mais l'autruche, je réfléchissais après. Il est dit aussi qu'elle est capable d'abandonner ses petits. C'est terrible quand la stupidité nous attrape. Hein, qu'on est capable d'abandonner des choses que Dieu nous a données. Oui ou non? Que Dieu nous fasse grâce. Il est le Dieu vivant. Et si tout d'un coup, dans cette rétrospective de l'histoire d'Israël, il y a un conseil qui est lié par rapport à la bénédiction, par un avertissement, il faut que je puisse me bouger et que je puisse réagir en tous les cas et dire, mais Seigneur, moi je sais que tu es vivant, tu sais où tu veux m'amener, tu sais ce que tu as préparé et je vais y entrer. Alléluia. Il est vivant. Et ce soir, quand vous prierez, peut-être corrigez votre façon de vous approcher de Dieu avant de vous endormir. Si c'est un avertissement, c'est sérieux. Quelqu'un un jour me disait, il ne faut pas dire prenez garde. Quand vous, un pasteur hein, qui disait à son église, ne dites pas prenez garde quand vous prêchez, dites prenez soin. Vous voyez, pour atténuer la valeur de l'avertissement. Si c'est écrit prenez garde, écoute, on lit prenez garde. Pas commencer à tordre les trucs, ça ne sert à rien. Mais en tous les cas, que de chrétiens sont passés à côté de largesse, que de chrétiens sont passés à côté de faveur. Moi, je trouve que c'est dommage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réalisé que Dieu était vivant. Il est le Dieu vivant. Voilà la raison de cet avertissement. Il n'est pas dit, prenez garde que quelqu'un de vous se sépare de la bénédiction. Alors, est-ce que ça aurait pu être dit comme ça? Alors là, c'est un gros sujet. Est-ce que le Saint-Esprit aurait pu inspirer l'auteur et dire « Non, non, n'écris pas ça. » Écris que quelqu'un ne se détourne pas de la bénédiction. Alors c'est important quand même parce que la bénédiction, elle est liée à quoi? À l'obéissance. Et l'obéissance au Dieu vivant. Mes frères et sœurs, ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir. La bénédiction, elle vient de qui? Elle vient de Dieu. Donc je dois m'approcher du Dieu vivant, le connaître. Le connaître, c'est avoir la vie. D'ailleurs, Jésus l'a dit, te connaître, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il est dit exactement? La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est connaître le Dieu vivant. Et mes frères et sœurs, soyons sérieux avec les avertissements. C'est sûr que dans les boîtes à promesses, vous n'en trouverez pas beaucoup. Même dans les éphémérides. Mais ça vaut quand même la peine de lire la Bible, mes frères et sœurs. Oui, c'est important. C'est pour que nous ne nous séparions pas du lieu du Dieu. Je relis le verset. Mes frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Et lorsque le doute commence à s'installer, à rôder, vous savez, vous connaissez les ruses de l'ennemi pour nous détourner, pour nous éloigner. Vous avez jamais vécu ça hein? C'est pas bon signe. Parce que quand le doute s'installe, c'est comme s'il y avait une barrière invisible entre nous et le Seigneur. Mais cela va plus loin. Et je voudrais terminer avec cette pensée qui, je l'espère, ne s'adresse à aucun de nous. Mis à part s'il y avait des pécheurs parmi nous qui n'ont pas encore donné leur cœur au Seigneur et qui se bagarrent avec Dieu. Ça va plus loin cette affaire du Dieu vivant. Regardez avec moi dans Hébreux 10, 31.
Ce verset, j'aurais pu ne pas le prendre dans le sens où ça ne concerne pas trop les chrétiens. Enfin, ça ne devrait pas concerner les chrétiens. Hébreux 10, 30 et 31. Voilà, ça fait partie des sujets d'interrogation du pasteur lorsqu'il prépare une prédication. Est-ce que je dois prendre ce verset? Alors on pourrait me dire, mais ne t'inquiète pas, tu peux prendre tous les versets, ils sont dans la Bible. Mais est-ce qu'il y a des versets qui sont pour les chrétiens? Est-ce qu'il y a des versets qui sont pour les inconvertis? Alors vous allez comprendre. Hébreux chapitre 10, verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Verset 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Si vous voulez mettre la petite ventilation aussi, merci. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Vous l'avez lu avec moi? Bon. Est-ce que c'est un avertissement? Ça va plus loin. Là, on est plus loin que l'avertissement. Alors, pourquoi ces choses ont été écrites? Ces choses, elles ont été... Écoutez bien, frères et sœurs, parce que c'est quand même dans un sujet qui est très, très, très intéressant. Le Dieu vivant qui agit. Ces choses ont été écrites pour que nous comprenions bien qu'on doit être sérieux avec les choses de Dieu. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux avec les choses? Au travail, on dit de certaines personnes, cette personne, elle est sérieuse. Oui, vous avez déjà eu des employés ou vous avez été employé, vous pouvez dire, oh, cette personne, elle est sérieuse. La façon dont elle travaille, c'est une personne sérieuse. Mais est-ce que nous sommes sérieux avec papa croyant? Est-ce que nous sommes sérieux avec les choses de Dieu? Parce que qu'est-ce qui nous dit ce texte? Même si on peut supposer qu'il s'adresse surtout à des gens qui luttent avec Dieu. Mais est-ce qu'un chrétien peut lutter avec Dieu? Enfin, contre Dieu? Eh oui, eh oui, c'est écrit à l'Église aussi. Alors que beaucoup, on pourrait, voyez, là, on pourrait argumenter, dire, mais non, mais ça, monsieur Gros, ce verset s'adresse aux impies, aux gens qui sont contre Dieu, quand ils vont tomber entre les mains du Dieu, ça va être le jugement. Oui, mais mes frères et sœurs, quand même, soyons sérieux, parce que moi, franchement, ça me fait peur de voir la légèreté chez tant de chrétiens, que quand même, qu'on le veuille ou non, nous aurons à rendre compte au Dieu vivant. Oui ou non? Un jour, vous allez vous présenter devant le Dieu vivant. Oui ou non? Est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit. Soyons honnêtes. Oui, Dieu est vivant. Et voyez, je vous assure, je connais bien la parole. Enfin, je la connais de mieux en mieux. Et je sais très bien comment ce sujet, j'aurais pu le présenter d'une façon beaucoup, beaucoup, beaucoup positive. Mais est-ce que ce n'est pas encore plus positif que de comprendre qu'il y a des choses sérieuses? Il y a un Dieu vivant. Et il ne faut pas que nous tombions entre ses mains d'une mauvaise manière. Parce qu'il faut qu'on le rencontre. Et il faut que cette rencontre soit un sujet de réconfort. Un vrai chrétien, il doit être réconforté à l'idée qu'il va rencontrer le Seigneur. Oui ou non, c'est une parole de réconfort pour vous de rencontrer le Seigneur ou une parole de terreur? C'est quoi? Allez, il faut me répondre, sinon j'arrête. C'est quoi pour vous? Un réconfort? Alléluia. Est-ce que c'est une parole de réconfort? Eh oui. Est-ce que vous vous rendez compte? Toutes ces choses, elles ont été écrites. Bien sûr, il faut. Mais Seigneur, je vais passer devant toi. Tu es le Dieu vivant. Parce que nous, je vous assure, beaucoup de gens. Mais il y a des gens, moi je l'ai vu parmi nous. Hein, des gens à qui on a fait des reproches justifiés. Qui ont dit, oh, mais moi, monsieur Gauss, ce que vous me dites, ça ne m'impressionne pas. Moi, je sais que je passerai devant Dieu et ça me suffit. Ah, dit, écoutez, vous pourriez peut-être mieux inverser le jugement. Les gens, ils ne se rendent pas compte que c'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant si on désobéit. Mais si vous obéissez, quelle bénédiction! Seigneur, et tu vas m'aider, et tu vas me conduire. Oui, j'aime pas trop cette épreuve, ça me barre le chemin, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais Seigneur, tu vas m'aider. Je vais apprendre ce que je dois apprendre. En ce moment, c'est peut-être pas facile avec mes enfants. Est-ce que ça peut être difficile quand les enfants sont des ados? Eh bien, Seigneur, je vais apprendre. C'est peut-être, en ce moment, j'ai peut-être une difficulté avec mon épouse. Il y a une incompréhension. Est-ce que ça peut arriver dans un couple qui a une incompréhension? Ben oui, ça peut arriver. Eh bien, Seigneur, je vais apprendre.
je vais apprendre à me tenir devant toi. Tu es vivant. Tu es vivant. Il n'est pas possible que si je m'approche du Dieu vivant, à moins qu'il y ait des obstacles à la prière, eh bien, réglez-le. Réglez-le. Et le Seigneur vous le montrera. Vous croyez que Dieu joue à cache-cache avec ses enfants ? Si vous, je doute fort que si nous nous tenions devant Dieu vraiment toute objectivité, Seigneur, montre-moi s'il y a un obstacle à la prière. Que Dieu ne vous le montre pas. Moi, écoutez, je veux bien croire qu'il y ait des combats, mais jusqu'où ? Jusqu'où nos combats ne sont pas plutôt verrouillés par la désobéissance ? Et il faut être honnête. Parce que Dieu a une solution à tous les problèmes. Vous savez, ce matin, je priais, parce que hier soir, je pensais au choix que j'ai fait avec mon épouse, qui m'a aidé, parce que là aussi, il y a des choix à faire, il faut être aidé par sa femme. Quand on a été à Groyer, je vous le donne parce que je pense que ça, c'est la volonté de Dieu que je vous le donne. Quand je suis arrivé à Groyer, on était une vingtaine de chrétiens qui étaient tous découragés. Et cette église, elle était découragée. Découragée, on devait plusieurs salaires, enfin l'église devait plusieurs salaires au pasteur. Donc quand on est arrivé, on a compris l'état dans lequel l'église se trouvait. Il n'y avait pas de sono, il n'y avait pas de musicien, il n'y avait pas de chauffage. C'était vraiment une église difficile. Et tout le monde se plaignait, tout le monde se plaignait. Et moi, je savais que Dieu était vivant. Je l'avais quand même déjà expérimenté. Et un soir, j'étais pas bien un soir. Parce que quand même, vous savez, quand à la sortie des cultes, tout le monde s'est découragé. Monsieur Gaud, Dieu ne pourra rien faire ici, parce qu'il y a plein de guérisseurs et des rebouteux. Dieu ne pourra rien faire ici, parce que les gens, ils sont empêtrés dans leurs problèmes. Vous savez, enfin, une foi, c'est un truc qui t'encourage, quoi, la fin des cultes. Bon, même s'il n'y en a que 20, c'est le seul avantage, c'est qu'il n'y en avait que 20, quoi. Qui te décourageait. Et un soir, je suis parti faire le tour du lac, et vraiment, je priais, parce que je crois que Dieu entend les prières, pas que dans l'église. Et je faisais le tour du lac, écoutez bien, je faisais le tour du lac, j'étais jeune. Et quand j'arrive à un certain endroit, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, tu prêcheras à l'église catholique. Bon, je continue, je me suis dit, peut-être ça vient de toi, mais c'était tellement fort. Le mardi, je me suis approché d'une femme qui est devenue une sœur, qui était vraiment ce qu'on appelle, excusez-moi l'expression, ça ne va pas te plaire à tout le monde, mais c'est pour que vous compreniez bien, une grenouille de bénitier. C'était une catholique fervente qui cherchait Dieu. Et je lui dis, elle est auprès du Seigneur maintenant, vraiment elle était au Seigneur. Et je lui dis, Madame Sankang, est-ce que déjà un pasteur a déjà prêché à la cathédrale ? Et Monsieur Gaud, jamais à Groyer un pasteur prêchera à la cathédrale, ne vous inquiétez pas. C'est impossible. L'église, la cathédrale a 300 ans, jamais un pasteur n'a prêché à la cathédrale. Bon, j'ai dit, ça vient de toi, peut-être tu fais une idée. Et puis quelques semaines après, on priait. Tous les jours on priait, Seigneur, tu es vivant, tu sais comment régler le problème de cette église. Et quelques semaines après, on voit un gars complètement déjanté, mais vraiment déjanté. Vraiment déjanté. Il est arrivé à sa mobilette, mais complètement, le gars, à l'ouest. Écoutez bien. Et il me dit, il commençait à nous dire, voilà, oui, j'étais le garde du corps de Giscard d'Estaing. Puis tout d'un coup, il s'arrêtait de parler. Il disait, attendez, ils arrivent. Mais qui ? Les extraterrestres. Ah, d'accord. Et je n'exagère pas. C'est vrai, Isabelle. Il nous réveillait la nuit pour nous expliquer que les extraterrestres arrivaient sur l'église et qu'il fallait, bon, je me rappelle, bon, mais ça fait rien. On s'est occupé de lui. On avait une âme nouvelle qui arrivait. Elle était un peu en braque. C'est vrai, mais ça fait rien. Et on l'a entouré. Et quelques mois après, c'était au début qu'on était à Groyer. Quelques mois après, son père m'appelle. Il me dit, Monsieur Gaud, est-ce que vous pouvez venir à la maison ? Venez à telle adresse. Je vais à la maison, une baraque, une super baraque. C'est pas possible, il n'habite pas ce gars. Je regarde, c'était chez lui. C'était l'ancien préfet d'Aurillac, son père. On discute, on rentre, une super conversation. Il me dit, vous savez que mon fils va mourir ? Et je veux que ce soit vous qui fassiez l'enterrement à la cathédrale. Ah, j'ai dit, tiens, ça te dit quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé. Et Dieu a béni, mes frères et sœurs. Pourquoi je dis ça ? Parce que franchement, je vous assure, j'étais jeune pasteur, j'étais même pas reconnu encore, mais ça, c'est pas important. Et je peux vous dire qu'il y avait un esprit d'écrasement, de découragement. C'était diabolique. C'était diabolique. Mais moi, je crois que Dieu, il est vivant. Et que lorsqu'on lui fait confiance, il y a toujours une solution. Toujours. Et peut-être il faudrait que nous ressemblions à Samuel, comme on l'a vu jeudi soir, qui, lorsque les Philistins allaient attaquer Israël, il a offert un agneau de lait à l'autel. Et peut-être qu'il faudrait qu'on retourne au calvaire, vraiment. Parce que quand même, c'est vrai qu'il y a des bénédictions, en veux-tu, en voilà. Et que le Dieu vivant, il n'arrête pas de nous consoler avec des promesses, en veux-tu, en voilà. Mais que quand on est sérieux, on se dit quand même, je peux me tromper, et je peux m'égarer, et je peux me détourner du Dieu vivant. S'il y a tant de rétrogrades, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'ils avaient moins de problèmes que nous. C'est parce qu'ils se sont détournés du Dieu vivant, et ils se mettent en danger de se retrouver un jour contre ce Dieu, qui voudrait que ça soit qu'un réconfort le moment où on va passer devant lui. Moi, je vous assure, j'attends ce moment. J'attends ce moment, ce sera pour moi le moment le plus important de mon éternité. Mais je veux que ce soit le meilleur des moments. Et je sais que ce n'est pas Dieu, parce que Dieu l'a déjà choisi ce qu'il voulait. C'est à nous de choisir ce qu'on veut. Il est le Dieu vivant. Je ne m'en détourne pas. Je vais tomber entre ses mains. Je veux que ce soit un jour de fête, où j'entendrai entre bon et fidèle serviteur. Je sais que Dieu est vivant. Quelle est la seule, regardez, je termine avec cette pensée. Quelle est la seule condition? C'est un truc de fou. La seule, d'ailleurs c'est juste après, la seule condition que Dieu demande pour ceux qui s'approchent de lui. Hébreux 11, verset 6. Regardez ce verset. Regardez-le s'il vous plaît. Regardez cette bonté du Seigneur. Caroline, vous pouvez digérer. Hébreux 11, ça ne m'étonnerait pas quand même. Hébreux 11, verset 6. Regardez bien ce verset. Regardez bien cette sollicitude dans un contexte d'avertissement, dans un contexte d'enseignement. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous voyez cette incrédulité, combien elle nous éloigne de Dieu. Car il faut, c'est un impératif, il faut que celui qui s'approche de Dieu donne sa dîme, aille à l'église, surtout à toutes les réunions, qu'il soit très gentil avec le pasteur, ça c'est par contre ça vous pouvez l'ajouter. Comment? Bon, j'en rajouterai. Alors on reprend. Allez, on revient. Pardon. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Mais est-ce que vous réalisez? Mais vous vous rendez compte qu'est-ce qu'on est inexcusable? La seule chose que Dieu nous demande quand tu t'approches de lui, de croire qu'il existe, qu'il est le Dieu vivant, et la suite en plus c'est pas piqué des vers, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, il y a quelqu'un qui a dit amen? Est-ce que vous réalisez ce que l'on vient de lire? Une bénédiction, et je vous dis, j'aurais pu alterner toute ma prédication sur la bénédiction, mais ça n'aurait pas été droit devant Dieu. Il y a des avertissements, il y a des paroles terribles qui nous amènent, ni plus ni moins, à être sérieux. Il est vivant. Et ne vous inquiétez pas, il sait ce qu'il fait. Et s'il n'a pas répondu à votre prédication, eh bien c'est à vous de vous remettre en question. S'il n'a pas répondu, soyez honnête. N'envoyez pas tout balader, parce que quand vous allez passer devant Dieu, vous allez tomber entre les mains du Dieu vivant, et ça, vous allez le regretter, parce que vous n'aurez pas pris au sérieux l'enseignement qui a été apporté par des hommes de Dieu. Parce que même si j'ai des progrès à faire, je pense que ce que je vous apporte, c'est la pensée du Seigneur. Alors ça vaudrait quand même la peine qu'on dise, Seigneur, c'est vrai, tu es vivant, tu me demandes qu'une chose, que tu existes. Moi, quand je lis ça, franchement, moi, je suis bouleversé. Parce que je vous assure que notre Dieu, au bout de tant d'années de marche avec Dieu, il aurait pu nous dire, tu t'approches de moi. Eh bien, j'exige ça, ça, ça et ça. Franchement, et personne n'aurait rien dit, tout le monde aurait dit, bon, c'est Dieu qui le demande, c'est bien. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Il n'y a que monsieur de Dieu qui dit amen, ça m'énerve. On ne peut pas tous dire amen et dire Seigneur, merci Seigneur. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Où que je sois, quelle que soit la situation dans laquelle je me suis fourvoyé, il est vivant. Vous demanderez au roi Manassé si le Seigneur il est vivant. Vous lirez 2 Chroniques 33 ce soir et vous direz, tiens, c'est sûr que quand même, il est plus puissant que ce que M. Gaulle a dit. Alors on va lui demander son aide. Et qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, si on n'est pas incrédule, eh bien, il nous aidera. Notre Père qui est aux cieux, notre Dieu vivant, tu es tout puissant, tu entends tout, la parole n'est pas sur notre bouche, que déjà tu la connaissais. Tu sais à quelle heure on se couchera, tu sais le jour de nos naissances, le jour de notre décès, tu connais tout. Oui, nous voulons dire avec ces hommes de Dieu que tu es le Dieu vivant et que chacun de tes avertissements Chacune de tes paroles, qu'elles soient sévères ou pleines de tendresse, sont des paroles de bénédiction pour tous les hommes. Merci Seigneur Jésus pour ton aide. Amen.